Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Nous sommes entrés dans le Triduum Pascal, centre de gravité de l'année liturgique. Les trois jours qui vont de la scène à la résurrection constituent le mystère pascal, le cœur de la foi chrétienne. Retrouvez toutes les célébrations liturgiques présidées par le pape François sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, les informations et les retransmissions en direct et en vidéo avec commentaires en français. Cette année encore, le Saint-Père a choisi de ne pas célébrer la messe de la scène du Seigneur dans le cadre somptueux de la basilique Saint-Jean de Latran, cathédrale de Rome, comme le faisaient ses prédécesseurs, mais de se rendre dans un lieu modeste où l'on côtoie la souffrance humaine, la fondation Don Carlo Gnocchi, qui accueille des handicapés et des personnes âgées. Cette année non plus donc, pas de prestigieuse chapelle Sixtine pour exécuter les chants de la messe. La chorale était composée de ces mêmes pensionnaires et volontaires qui animent la messe tous les dimanches dans ce centre. Xavier Sartre.
L'année dernière, fraîchement élu, le pontife argentin avait créé la surprise en se rendant dans une prison pour mineurs et en lavant les pieds de jeunes détenus, garçons et filles. Pour son deuxième jeudi saint en tant que pape, il a choisi un centre médical qui accueille notamment des personnes très âgées et démunies, la fondation Don Carlo Gnocchi, une des nombreuses périphérique de la société actuelle, une société qui privilégie le rendement et la bonne forme, alors que les vieux et les handicapés sont souvent considérés comme un poids pour leurs proches et une charge financière pour les contribuables. Le pape François a plus d'une fois attiré l'attention sur la richesse du grand âge, selon lui sous-estimée dans la culture actuelle du déchet. En 1963, Paul VI avait visité un institut de la fondation Don Gnocchi. Jean-Paul II s'y était rendu à son tour en 1990, mais c'est la première fois qu'un pape y célèbre la messe de la scène du Seigneur. Le pape François a voulu laver les pieds de 12 patients âgés de 16 à 86 ans, 9 Italiens et 3 étrangers dont un musulman. Le plus jeune, un Capverdien, est paralysé des 4 membres à la suite d'un plongeon dans la mer. Ils symbolisent, avec leurs infirmités, les anciennes et nouvelles formes de fragilité dans lesquelles la communauté chrétienne est appelée à reconnaître le Christ souffrant.
Et en ce jour qui commémore l'institution du sacerdoce, le souverain pontife a appelé jeudi matin les prêtres catholiques à travers le monde à transmettre la joie autour d'eux et à faire de l'Église une maison aux portes ouvertes, refuge pour les pécheurs, foyer pour ceux qui vivent dans la rue, maison de soins pour les malades, camping pour les jeunes. Le pape François présidait la messe chrismale dans la basilique Saint-Pierre. Dans tous les diocèses du monde, c'est au cours de cette messe que le Saint-Crème est consacré. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques, puis tout au long de l'année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Avec le Saint-Crème, qui est l'objet d'une consécration spéciale, deux autres huiles sont bénites, l'huile des catéchumènes et l'huile des malades. Cette célébration manifeste l'unité de toute la communauté diocésaine autour de son évêque. Devant des milliers de prêtres et une centaine d'évêques et de cardinaux, le Saint-Père a confié être passé lui-même par des moments de tristesse où tout semble s'obscurcir et où le vertige de l'isolement nous séduit. Ces moments d'apathie et d'ennui que parfois nous connaissons dans la vie sacerdotale, a-t-il dit. Le compte-rendu de son homélie avec Olivier Bonnel.
Il sacerdote è una persona molto piccola.
Le prêtre est une personne toute petite, a souligné le pape. L'incommensurable grandeur du don qui nous est donné pour ce ministère nous relègue parmi les plus humbles des hommes. S'il ne prend pas racine dans le Christ, a ajouté François, le prêtre est par contre le plus pauvre des hommes, le plus sans défense des chrétiens, vu que personne n'est plus petit qu'un prêtre abandonné à ses seules forces. Au cours de son homélie, le Saint-Père est revenu aussi sur le sens de la joie d'être prêtre. Une joie, a-t-il dit, incorruptible, une joie missionnaire qui irradie et attire, en commençant par les personnes qui sont les plus lointaines. Dans les moments de tristesse, a poursuivi le pape, où tout semble s'assombrir et quand le vertige de l'isolement nous séduit, dans les moments d'apathie et d'ennui qui parfois surviennent dans la vie d'un prêtre et par lesquels je suis aussi passé, a-t-il insisté, le peuple de Dieu est capable de protéger la joie, de te protéger, de t'embrasser, de t'aider à continuer d'ouvrir ton cœur et de retrouver la joie. Cette joie du prêtre a trois sœurs, a confié François dans une jolie image. Trois sœurs qui l'entourent, la protègent, la défendent. La pauvreté, la fidélité et l'obéissance. Pour trouver son identité, le prêtre doit sortir de lui-même. Il doit rechercher Dieu dans l'adoration. Et sa fidélité est à rechercher dans le sens d'une fidélité toujours renouvelée à l'unique épouse, l'Église. Une Église vivante, a dit le pape, dont le prêtre doit prendre soin dans sa paroisse ou dans la mission qui lui a été confiée. Là où le peuple de Dieu a un désir ou un besoin, a conclu le Saint-Père, là se trouve le prêtre qui s'est écouté et ressent une mission que lui a donnée le Christ. Celui-ci l'envoie secourir avec miséricorde et avec une charité pleine de créativité.
Et selon des chiffres publiés par l'agence France Presse, en France, un prêtre catholique sur 10 est étranger et le plus souvent africain. La France compte ainsi actuellement 1620 prêtres étrangers, dont 916 africains et 314 européens, dont une moitié de polonais. Les étrangers soutiennent une église vieillissante malgré quelques difficultés d'adaptation. Toujours selon l'AFP, les prêtres étrangers sont jeunes. Leur moyenne d'âge est inférieure à 50 ans contre 72 chez les prêtres français. Leur nombre monte régulièrement, ce qui a conduit les évêques de France à créer un groupe de travail chargé de se pencher sur leurs problèmes, présidé par l'évêque de Saint-Étienne, Mgr Dominique Lebrun. Pour garder un certain équilibre et ne pas appauvrir les églises du Sud, le Vatican recommande de ne pas dépasser le seuil de 20 à 25% d'étrangers au sein de l'ensemble des prêtres d'un même diocèse. Ce vendredi saint, le pape François présidera la célébration de la Passion du Seigneur à partir de 17h dans la basilique Saint-Pierre. Puis dans la soirée, il se rendra au Colisée pour le traditionnel chemin de croix dont les méditations ont été écrites cette année par un évêque de terrain connu pour le courage de ses prises de position contre la mafia. C'est également le vendredi saint qu'a lieu la collecte annuelle pour la Terre Sainte, Cyprien Viette.
Les chrétiens du Moyen-Orient vivent dans l'insécurité et la violence. Ils se demandent tous les jours s'ils doivent rester ou émigrer. La Congrégation pour les Églises orientale a adressé une lettre aux épiscopats du monde entier pour leur demander de se montrer solidaires des chrétiens qui résistent en choisissant de rester. La collecte du Vendredi Saint représente parfois leur principale source de subsistance. 65% des sommes récoltées sont envoyées à la custodie de Terre Sainte pour le maintien des lieux saints et les activités de solidarité. Or, les besoins se sont accrus. Ces dernières années, 80% des collectes reçues par les franciscains ont été destinées aux œuvres pastorales et sociales et uniquement 20% aux sanctuaires. Au cours des siècles, les papes ont renouvelé leur confiance à l'égard des franciscains, confirmant leur rôle de gardien légitime des lieux saints qui leur a été accordé par le Saint-Siège en 1342. Un aspect fondamental de ce soutien constant a été et demeure la collecte pour la Terre Sainte. Les activités du patriarcat latin par mandat du Saint-Siège sont soutenues par les chevaliers du Saint-Siège Sépulcre, ainsi que par d'autres institutions.
Semaine sainte mouvementée en Centrafrique, l'évêque de Bossangoa et trois prêtres ont été brièvement enlevés mercredi par des combattants de l'ex-rébellion Séléka avant d'être libérés ce jeudi. Les combattants de l'ex-coalition rebelle Séléka, à majorité musulmane, brièvement au pouvoir en Centrafrique, sont désormais en déroute et continuent de semer la terreur dans diverses régions de province. Face à eux, les milices anti-Balaka, à dominante chrétienne, sévissent également dans le pays, en particulier dans la région nord. L'été dernier, dans cette région, près de 45 000 personnes avaient fui les affrontements et s'étaient réfugiées à l'archevêché de Bossangoa. Nous avons joint l'archevêque de Bangui, Mgr Nzampalenga.
Avec le départ des Miskas tchadiens, il y a les Séléka qui sont revenus. Actuellement, vous avez un petit groupe de Miskas au niveau de Kabo, Batangafo, mais les Séléka qui sont majoritairement dans cette ville.
Il y a quelques jours, avec l'évêque de Bossangoa, vous aviez écrit une lettre dans laquelle vous protestiez contre les actions de la MISCA.
Oui.
Ça peut avoir un lien avec ce qui vient de se passer?
Je laisse les autres répondre. Mais nous, on écrit, on dit ce qu'on pense à nos risques et périls. Pour le peuple, plutôt. Nous ne faisons pas pour nous. Nous sommes là pour protéger les brebis. Nous, en tant que chrétiens, quand nous parlons de la passion, il ne s'agit pas d'une utopie, d'une illusion. C'est des situations réelles.
Mgr Nzampalenga, archevêque de Bangui, interrogé par Hélène Destombes. Semaine sainte sous tension également dans le sud des Philippines en raison des affrontements violents entre les forces gouvernementales et des rebelles séparatistes musulmans. L'évêque d'Isabela a demandé un cessez-le-feu dans la province de Basilan, appelant les musulmans à respecter la semaine sainte, tout comme les chrétiens respectent le ramadan. Mais le chef d'état-major de l'armée philippine a déjà déclaré qu'il n'y aurait pas de trêve. Le pape François a approuvé mercredi les décrets concernant deux baptisés ayant vécu les vertus humaines et chrétiennes de façon cohérente avec l'Évangile, c'est-à-dire de façon héroïque. Les deux nouveaux vénérables sont un prêtre autrichien et un évêque français, Mgr Alain-Marie Guinaud de Boismenu, missionnaire évangélisateur en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Né à Saint-Malo, en Bretagne, en 1870, il est mort à Kubuna, dans la République des îles Fidji, en 1953. Le père Georges Delbos, missionnaire du Sacré-Cœur, a préparé pendant 8 ans, de 1987 à 1995, en tant qu'expert historien, le dossier d'instruction concernant le procès en béatification de Mgr Alain Guinaud de Boismenu. Il évoque le parcours et la figure d'un homme qu'il qualifie d'extraordinaire.
Je le classerais dans la catégorie des passionnés. Il avait une très grande sensibilité, une force d'amitié très grande. Il aimait beaucoup, beaucoup ses missionnaires. Il avait une très forte volonté. Et puis, il avait toujours le sourire aux lèvres. D'ailleurs, il avait un surnom appelé « Smiling Face ». Quant à sa vie spirituelle, alors c'était très profond. D'abord, il avait un sens de Dieu extraordinaire qui se manifeste à travers cette réflexion, n'est-ce pas, la sainteté au naturel. Il fallait que Dieu s'insinue tellement dans la vie qu'il paraisse tout à fait à sa place, ce qui est d'ailleurs le cas. Et puis, il avait un culte, mais alors très personnel, pour Jésus-Christ. Il avait une relation très personnelle avec Jésus-Christ, si bien qu'il était très eucharistique, il avait le sens de la messe, c'était vraiment un homme de Dieu. Et quand il a terminé son mandat, qu'il a obtenu, n'est-ce pas, à sa retraite, pratiquement toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée avait été conquise par le catholicisme.
Que représente cette reconnaissance des vertus héroïques pour la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus ?
C'est la reconnaissance, disons, du grand travail qu'elle a fait dans cette région du Pacifique. Vous savez qu'elle avait reçu, en 1882, elle avait reçu mandat de Rome pour évangéliser la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Gilbert. L'évangélisation du Pacifique n'a commencé qu'en 1836, avec les Pères Maristes. Parce que la découverte de l'Océanie date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ce sont les protestants qui, en 1792, déjà se sont établis sur les lieux, si bien que lorsque nous sommes arrivés là-bas en 1836, les Pères Maristes, à ce moment-là, il a fallu gagner du terrain, s'implanter sur le terrain. Ça n'a pas été partout facile.
Le père Georges Delbos, interrogé par Hélène Destombes. Lourdes a pris un coup de jeûne ces jours derniers. Pendant 4 jours, plus de 10 000 personnes, dont 80% de jeunes, principalement élèves de seconde à la terminale âgés de 15 à 17 ans, et 300 bénévoles ont participé au 106e pèlerinage du Frat, surnommé les JMJ d'Île-de-France. Outre le côté festif, ce pèlerinage est articulé autour de nombreuses célébrations comme la procession mariale. C'est aussi un lieu d'éveil à la solidarité internationale et de prise de conscience des inégalités dans le monde. Enfin, Lourdes est un lieu de rencontre avec d'autres pèlerins, dont des personnes handicapées et malades, une école pour apprendre à prier. Jour J, mois 10, la double canonisation du 27 avril approche, un grand jour pour l'Église dans le monde entier. Jean XXIII et Jean-Paul II, deux papes immensément populaires. Tout au long des journées qui nous séparent de cette date, nous vous proposerons de réécouter la voix de ces deux grands papes. Nous commencerons aujourd'hui par le célèbre « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II. Vous allez entendre un extrait de l'homélie prononcée le 22 octobre 1978, place Saint-Pierre, lors de la messe d'inauguration de son pontificat. Jean-Paul II avait appelé les catholiques à un christianisme plus engagé et à l'ouverture des frontières.
Frères et sœurs, n'ayez pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir. Aidez le pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et avec la puissance du Christ, servir l'homme et l'humanité entière.
Con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa puissance salvatrice. Ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques. les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur, le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme et lui seul le sait.
Non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo lui lo sa.
C'était un extrait de l'homélie prononcée par Jean-Paul II le 22 octobre 1978 lors de la messe d'inauguration de son pontificat. Dès les premières heures de son pontificat pendant cette messe d'inauguration, Karol Wojtyla a prié face aux fidèles. Un acte de confiance et d'abandon en Dieu qu'il ne cessera de renouveler tout au long de sa vie. C'est cet aspect plus méconnu de sa personnalité que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui, à quelques jours de sa canonisation. Hélène Destombes a rencontré le cardinal Giovanni Battista Re, préfet émérite de la Congrégation pour les évêques, qui fut l'un des plus proches collaborateurs de Karol Wojtyla.
Dans la vision personnel que Jean-Paul II avait, la prière avait la première place. Il a été un homme d'action, mais il était aussi un grand homme de prière. Travaillant près du pape Jean-Paul II, beaucoup étaient les choses qui frappaient. Sa certitude, il n'était pas un homme de doute, mais toujours très sûr dans ses paroles, très sûr dans son gouvernement. Il frappait la capacité qu'il avait de parler à les foules, impressionnait aussi la profondité de sa pensée. Mais la chose qui toujours m'a plus impressionné, c'était l'intensité de sa prière. Il priait beaucoup. Les différents moments de la journée étaient marqués par des moments de prière. Et surtout, avant de prendre des décisions, il voulait prier très longuement. Et plus la décision était une décision importante, plus prolongée était la prière. Et il se préparait aussi à la rencontre avec les personnes dans les jours avant ou dans les semaines avant, en priant. Par exemple, quand il a reçu Gorbatchev, il a commencé en disant à Gorbatchev qu'il s'était préparé à cette rencontre, priant pour Gorbatchev et priant pour le succès de la rencontre.
Beaucoup de proches de Jean-Paul II le décrivaient comme un roc de prière, une immersion totale dans la prière. Comment priait-il ?
Oui, c'était vraiment édifiant la manière dans laquelle il passait du contact avec les gens, avec la foule, au moment de la prière. Et il avait une capacité de se concentrer. Et quand il était en prière, il ne se rendait pas compte de ce qui passait autour de lui. Et aussi, quelquefois, il ne se rendait pas compte du temps qui passait. Du temps qui passait. Et nous qui l'accompagnons dans les voyages, nous étions un peu inquiets pour que le temps passait et le pape continuait à être en prière. Il avait une grande capacité de faire une immersion en Dieu.
Le pape Jean-Paul II a-t-il changé sa façon de prier à la fin de sa vie, dans les moments de souffrance?
Je dirais qu'il n'a pas changé. Et dans les derniers mois, ce qui m'a surpris, c'était qu'il n'avait pas peur de la mort. Pour lui, la mort était comme passer à travers une porte au-delà de laquelle était Dieu, l'immersion en Dieu.
Un pape très actif qui a fait le tour du monde, mais qui dans le même temps avait ses moments de contemplation, ses moments de prière. C'est en quelque sorte un message au monde d'aujourd'hui où tout va très très vite, où on ne prend jamais le temps.
Et certainement, c'est un grand message qu'il a donné avec ce qu'il a dit, mais surtout avec son exemple. Il a été un grand homme d'action, mais il a été aussi un grand contemplatif. Il faut reconnaître qu'il était un mystique. Et un mystique, ça faisait partie de sa vie. Mais il était un mystique qui avait attention à les personnes, il était sensible à les personnes, à les situations. Et pour cela, il a été un grand mystique, mais un mystique qui a tenu une influence sur l'histoire. Il a marqué l'histoire.
C'était le cardinal Ré, préfet émérite de la Congrégation pour les évêques. Je vous rappelle que grâce à une initiative du Centre de télévision du Vatican, la cérémonie de canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II sera retransmise gratuitement en 3D et haute définition dans 500 salles de cinéma dans le monde. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais je vous invite sur tous ces jours-ci à nous retrouver sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.